Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Coup de cœur pour les histoires d'Anouk qui vient d'être mise en ligne sur la plateforme France.tv. À cette occasion, les créateurs Jacques Kugler et Marion Michaud seront nos invités accompagnés de leurs deux héroïnes, Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche. On aura le grand plaisir en fin d'émission de vous faire découvrir le nouvel EP de Magali Vahé, l'ancienne gagnante de la Starac 5, sera donc en ligne avec nous. À l'interprète Bardot depuis deux semaines maintenant sur France 2, Julia de Nunez sera notre invitée exceptionnelle pour revenir sur cette incroyable biopic que l'on vient de découvrir sur France 2 et dont c'est le final ce soir. Il vient d'arriver dans la série Ainsi Grand Soleil et il est en train de tourner d'ailleurs Les Invisibles saison 3. Jérémy Comillot sera notre invitée. Elle cartonne également dans HPI, elle joue le rôle de Daphné. Bérangère McNeese également sera notre invitée exceptionnelle pour revenir sur le succès incroyable de cette série. Vous l'avez compris, eh bien on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Voici tout de suite notre spécial des histoires d'Anouk.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler des histoires d'Anouk, la fiction que vous allez pouvoir retrouver sur France Télévisions, sur le site France TV / la plateforme de France Télévisions avec cette histoire, les histoires d'Anouk créées par Jacques Kugler et Marion Michaud qui sont avec nous aujourd'hui à la réalisation. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une adaptation d'un livre, Les Histoires d'Anouk. Hein ?
Tout à fait. C'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle I Love, que j'ai écrit il y a 4-5 ans. Et donc, comme toutes les adaptations, c'est pas complètement le livre, mais ça s'en inspire.
C'est quoi Les Histoires d'Anouk en quelques mots, Jacques ?
C'est l'histoire d'Anouk qui part à la recherche de ce qu'elle croit être l'homme de sa vie. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est pas vraiment l'homme de sa vie, mais sur le chemin, elle va croiser un homme qui pourrait être l'homme d'une partie ou de toute sa vie. Et c'est ce parcours de femme, ce parcours d'une histoire d'amour qui se dessine au fil de l'eau, et elle le fait avec sa copine. Et c'est ce rapport entre deux femmes qui ont des chemins différents, mais qui sont tellement complémentaires.
C'est vraiment de la comédie romantique, hein?
Oui, avec la particularité de s'appuyer sur un univers qui est celui de Marion, qui est un univers qui nous fait sourire et nous fait réfléchir à la fois, pose les questions et les aborde avec beaucoup de légèreté, d'intelligence et donne envie d'y réfléchir.
Ouais, les remises en question, le célibat, il y a plein de choses qui sont évoquées en fait au travers de cette fiction.
Tout à fait, et moi ce qui me plaît, c'est que ça s'adosse sur une amitié très forte entre deux femmes. Et que, au départ, on pensait faire vraiment une comédie romantique pur jus. Et la façon dont Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche ont incarné, ont donné vie à cette amitié. Finalement, je trouve que c'est le cœur battant du film. Et la comédie romantique est là aussi. Mais le cœur battant, c'est vraiment cette amitié, je trouve. Et du coup, ça décale un peu le propos. Et au final, ça donne plus d'épaisseur au propos. On n'est pas sur une fille qui cherche l'amour, qui va l'embrasser, puis terminer, ils se marieront, ils auront beaucoup d'enfants. On est sur deux filles qui, comme tu le disais, ont deux parcours différents. Donc leur frottement amène des réflexions sur le romantisme, sur l'amour, sur qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que la société nous dit qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend finalement vraiment intimement. J'ai l'impression qu'avec beaucoup de légèreté, on aborde ces sujets-là.
C'est vrai, de façon sérieuse, mais aussi sur ton de comédie. Et ça, c'est chouette de pouvoir explorer plusieurs facettes aussi de leur personnage, parce qu'elles y envoient une énergie folle, hein, les deux. Hein.
Ah oui, on a eu une chance extraordinaire d'une magie qui s'est faite avec Bérangère Crève d'un côté, Noémie Chiche-Portiche. Il y a eu une rencontre et une énergie extraordinaire et deux comédiennes formidables qui ont porté les deux personnages et qui ont traversé l'univers qu'on avait imaginé, et c'était formidable.
On va les recevoir dans un instant, justement, avant de nous parler aussi de leur rôle, toutes les deux, Bérangère et Noémie. À quel moment vous avez eu envie d'adapter votre livre, Marion ?
Eh ben, au tout départ, Bérangère le lit, alors que je ne la connaissais pas, et elle fait un post absolument craquant sur Instagram, donc je la remercie. Hein. Ça reste comme ça, et puis Bérangère en parle à Jacques, qui avait la double casquette de réalisateur et de producteur. Elle lui en parle comme producteur au départ. Jacques m'approche et l'aventure commence comme ça. Au tout départ, quand j'écris le livre, j'écris pas un scénario, parce que c'est par ailleurs autre chose.
Enfin, moi, c'est pas la même chose.
J'écris des scénarios, mais quand j'écris des livres, j'écris vraiment des livres. Donc j'essaye d'oublier les règles du scénario, les rebondissements, etc. Et finalement, je crois que ça reste un peu dans l'ADN du film, ce côté littéraire qui n'est pas construit complètement comme un unitaire classique.
Alors, le tome 2 du livre n'existe pas, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un tome 2 pour les histoires d'Anouk ?
On en rêve.
On en veut.
On en rêve, on en veut. Il faut qu'on retrousse nos manches et qu'on l'écrive.
On va demander aux filles, en tout cas, si elles sont d'accord pour empiler, mais je suis sûr que oui.
Rien n'est fait encore, mais en effet, on est tombé tellement amoureux de ce duo de comédiennes qu'on a envie de les revoir. Bon.
Et ben nous aussi, on a envie de les voir. On va les recevoir d'ici quelques instants. On va écouter la bande-annonce. L'histoire d'Anouk débarque sur France TV/, et on revient juste après avec Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche qui vont nous parler justement de leur rôle et du plaisir qu'elles ont eu justement à jouer dans cette belle comédie, dans ce beau film. Merci à tous les deux. Merci Jacques, merci Marion d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Comment t'as cette photo dans ton portable si tu l'as pas prise ?
Bah, je ne sais pas.
Le prince charmant n'existe pas, ok. Mais avoue que s'il existait, il ressemblerait à ça.
Géolocalise tes photos.
Et on se rend compte qu'il habite à Barcelone. Eh bah, ok, on y va.
Allez, vous allez pouvoir découvrir donc les histoires d'Anouk. On va continuer à en parler avec Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes les deux, les filles.
Salut, bonjour.
Merci d'être avec nous. On va présenter dans les personnages d'Anouk et Poca avec vous, les filles. Mais déjà, qu'est-ce qui vous a plu dans les histoires d'Anouk ?
Moi, je connais Marion parce que j'ai lu tous ses livres. Je la connaissais à travers ses romans. J'ai eu envie de travailler avec elle sur un projet avec Jacques Kluger. Projet qui ne s'est pas fait, mais qui a permis à Jacques et Marion de se rencontrer. Et du coup, ils ont adapté ce livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle I Love. Et la question, c'est quoi ? Qu'est-ce qui m'a plu dans le projet ? Moi, j'adore tout ce que fait Marion. Je trouve que c'est une excellente dialoguiste. Et je trouve le scénario hyper bien écrit, et surtout c'est vraiment des bonnes répliques, c'est vraiment de la comédie, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est comme de la musique. Et puis voilà, et en plus avec Noémie, on se connaissait pas, on s'est rencontrés pour les essais, le casting, et en fait ça a matché tout de suite, donc j'ai trouvé une musicienne de comédie comme moi avec ce goût là donc ça a été encore plus fort de jouer une partition à deux comme celle-là, quoi.
Surtout cette partition-là, c'est vrai que c'est rare de recevoir des scénarios qui donnent autant envie, en fait. Et avec des personnages qui sont drôles, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sous-couches, déjà à la première lecture, puis ensuite avec le travail qu'on a fait avec Marion notamment, sur vraiment, on a essayé vraiment de construire leur passé. Marion nous a envoyé des notes sur notre amitié, depuis quand on se connaît, comment on s'est connus et tout. Donc on s'est vachement nourri Et donc c'était voilà, hyper intéressant d'approfondir vraiment ces persos, d'apprendre à les connaître, quoi.
Ah ouais, ouais, non, mais moi en ayant lu le livre, déjà je voyais le film. Donc quand on me propose de le faire, je dis ouais, c'est un grand oui.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est votre énergie. Vous mettez une énergie permanente pendant 90 minutes, on s'ennuie pas. Et vraiment, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment chouette d'avoir deux comédiennes qui donnent comme ça à l'écran. C'était vraiment frappant, quoi. On s'ennuie pas une seconde.
Bah, on a eu beaucoup de chance, et ça revient un peu sur ce que disait Bérangère, mais on a eu beaucoup de chance d'être toutes les deux, parce que c'est vrai que moi j'appréhendais un peu, on se connaissait effectivement pas du tout, et on devait jouer quand même des amis d'enfance qui se connaissent très bien, et puis qui se foutent sur la gueule, qui se marrent, qui s'embrassent, qui pleurent, enfin c'était comme...
La vie, quoi.
La vie. Et donc je me suis dit, bon, bah, j'espère quand même que je vais bien m'entendre avec cette meuf, parce que vu l'intensité du tournage, vaut mieux. Et en fait, c'est pas qu'on s'est bien entendu, c'est qu'il y a une sorte d'alchimie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je la regardais être émue sur une scène, et j'étais émue comme dans la vie quand tu vois une copine pas bien et que ça t'émeut. Enfin, et donc vraiment, on s'est laissé porter par ça, et c'était assez magique, franchement.
C'est un plaisir de jouer ensemble, parce que déjà, oui, ce scénario, enfin, nous on adore les mots de Marion. On avait hâte de jouer certaines scènes. On se disait putain, la scène du truc, c'est jouissif, quoi. Et c'est assez rare d'avoir cette pétillance là. Donc oui, on était ravis.
Alors ça commence par Anouk qui raconte un peu à ses amis effectivement ses histoires. Alors on repart en illustrant ce qui se passe et ce qu'elle raconte, Anouk. Et puis à un moment donné, bah, il y a une photo qui surgit sur ton téléphone. Elle dit, mais moi je me souviens pas du tout de ce bel âtre qui surgit sur mon téléphone. Et là c'est toute une enquête, une comédie romantique qui nous attend dans cette fiction.
Eh ben oui, oui, c'est assez moderne comme conte en fait, finalement, avec ce souci d'iCloud qui va, en fait, je reçois les photos sur mon nouveau téléphone parce que mon cloud est connecté à mon ancien téléphone qui a été volé, et donc je reçois ces photos de mecs et je me dis, mais alors qu'est-ce qui se passe?
Et de mecs pas mal.
Mecs pas mal.
Donc on se dit, est-ce que c'est pas l'homme de ta vie, franchement? Ah, oui. Parce que c'est quand même fou d'en recevoir autant. Est-ce que c'est pas le destin? Enfin voilà.
Ça parle donc du coup de, c'est vraiment, quand je dis un conte moderne, c'est vraiment le célibat, le rêve du prince charmant. Qu'est-ce qu'on en fait, toute la story autour d'une histoire d'amour qui n'est même pas encore née, toute la projection qu'on peut en faire. Elles partent à Barcelone voir ce gars quand même. Bon, c'est pas rien.
C'est clair. Au moins tenter de le retrouver.
Bah oui. Donc moi je trouve que ça traite de ces sujets-là. Moi ça me parle énormément. Enfin,
concernant Poca, oui, justement du côté femme qui devient maman. Et qui s'oublie un peu, qui doit avoir un peu toutes les casquettes de la maman, de la femme, de la maîtresse, etc. Et qui à un moment donné se sent complètement débordée et oublie un peu son couple et voilà. Et moi, Poca, ce qui m'a vachement touchée, c'est que c'est une mère hyper aimante. Je pense qu'elle est un peu chef de famille, quoi. C'est son clan. Elle a envie de tout leur donner, mais elle se donne plus rien à elle-même et voilà. Et j'ai trouvé son cheminement hyper intéressant parce que voilà, elle va finir par se rendre compte qu'elle s'oublie complètement et qu'en fait c'est pas forcément sain. Voilà, le but dans le film, c'est qu'on espère qu'elle va se retrouver, se rendre compte de tout ça et se reconnecter un petit peu à sa vie à elle aussi, quoi.
J'allais demander comment tu définirais Poca, ben au moins ça s'est fait. Noémie, c'est parfait.
Quoi. Mère sacrifice, et puis après on espère qu'elle va comprendre des choses aussi grâce à son amie et grâce au parcours de son amie. Elles sont tellement proches et en même temps plus si proches parce qu'elles ont des vies tellement différentes que voilà, elles vont s'apporter des choses mutuellement.
C'est vrai.
Comment tu définirais Anouk, du coup?
Anouk,
c'est une douce rêveuse, un peu, je dirais, moi.
Anouk, des fois, je suis pas loin de Nanouk. Hein.
Ouais, ouais.
Bah, en fait, je pense que c'est une fille qui a du caractère, qui sait un peu ce qu'elle veut, mais qui, au niveau de l'amour, s'oublie aussi. En fait, c'est deux filles qui s'oublient complètement. Et d'un coup, elle mène sa barque, elle mène sa vie, c'est OK. Et puis d'un coup, parce qu'il y a un mec, elle lâche tout. Elle doit être quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que ça parle à pas mal de gens. Et de croire qu'on doit se transformer quand on est amoureux ou quand on est avec quelqu'un. Donc, elle a ce truc-là, mais c'est une fille... elle est un peu gauche et il lui arrive toujours des grosses looses. Mais ça, on aime bien.
Vous voulez voir du romantisme, vous voulez voir de la comédie, eh bien, c'est les histoires d'Anouk qui vous faut découvrir. Est-ce que c'est bouclé ou est-ce que vous avez envie, en tout cas, de faire une suite? Est-ce que vous aimeriez, pourquoi pas, si on vous écrivait une suite à ces histoires d'Anouk 2, pourquoi pas, est-ce que vous seriez partantes toutes les deux?
Oui, mais évidemment.
C'est vraiment le oui comme à la mairie.
Oui, je dis oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà, on a eu un tournage et pourtant on a tourné très très rapidement. On a tourné à Barcelone. Un Barcelone qui avait des allures de Bretagne. Pour une fois, on a eu des intempéries.
On est parti pour avoir le soleil et puis on était en doudoune avec des thés chauds à la plage. Enfin, c'est complètement absurde.
Ça n'a pas été un long fleuve tranquille du tout. Et pourtant, on en a un souvenir génial et on rempile quand Marion a fini d'écrire. Hein.
Ah oui, on est là.
Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci en tout cas, Bérangère. Merci Noémie d'avoir été avec nous. Et on va découvrir donc ensemble les histoires d'Anouk cette semaine sur France Télévisions. Merci à toutes les deux.
Merci à toi.
On est là pour rencontrer El Hombre de ta Vida.
Olé. Allez,
le gars s'appelle
Ramon.
C'est Raymond.
Il s'appelle Ramon.
Eh bien, très bien. Super. J'accueille. J'ai décidé de prendre la vie comme elle vient.
Moi, quoi, je suis avec ça dans toute ça.
Mais je suis prévoyante, voilà, c'est des culottes. Oui, de rechange, on sait jamais, voilà.
Et dans un instant, Julia de Nunez, Jérémy Covillot, Bérangère McNeese et Magali Vaé sont avec nous dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
T'as pas toujours été sincère. J'ai comme l'impression que tu jouais avec mes sentiments. J'aimerais savoir à quoi ça sert de t'être pris autant la tête, car tout se sait finalement. Déjà, mais t'es dupe de ton comportement. J'avoue, j'ai toujours su.
Tu mentais, je sentais bien. Tu mentais, je sentais bien. T'as besoin de médicaments. Tu prends toute la place dans la pièce. Tu penses faire ton intéressant. C'est jamais t'es dupe de ton comportement. J'avoue, j'ai toujours su.
Tu mentais, je sentais bien. Y'a que toi qui y crois. Tu dis n'importe quoi. Au fond je te connais pas. Tous tes mensonges tu vois. Y'a que toi qui y crois.
Tu mentais. Je sentais bien. Tu mentais.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Bardot. C'est le final ce soir. La série événement se termine. Et incroyablement interprétée par Julia de Nunez qui est avec nous justement au téléphone. Bonjour Julia.
Bonjour.
Quelle prestation, quelle série on a passé là, c'est la troisième semaine, troisième lundi ce soir, on a passé franchement déjà deux lundis incroyables avec cette série. Comment on fait pour s'approprier de la façon que vous avez fait une icône comme celle-ci, comme celle de Brigitte Bardot?
Bon, déjà merci beaucoup, Bah, au départ, c'est sûr que il y a eu beaucoup de recherches. Je me suis beaucoup documentée. Les Thompson ont fait vraiment un travail absolument incroyable. Il y avait beaucoup de d'archives. Il y avait beaucoup de matière, quoi.
Ouais.
Donc évidemment, moi, j'ai regardé beaucoup de ses films. J'ai lu ses mémoires. Je l'ai beaucoup regardé. Je l'ai beaucoup écouté. Et non seulement elle. Je pense que quand on interprète un rôle comme ça, il faut aussi s'intéresser à tout ce qui se passe autour de la personne, et donc dans quel contexte elle vivait, parce que c'est quand même les années 50, on vit pas comme on vit aujourd'hui. Toutes ces choses, il fallait que je les saisisse, il fallait que je les comprenne et que je m'en imprègne. Donc j'ai aussi beaucoup regardé des films de la nouvelle vague de ces années-là, mais très vite je me suis rendu compte que je voulais pas aborder, et les Thompson non plus, mon travail dans une forme d'imitation. Je pense qu'il fallait que ça aille plus loin que ça, parce qu'on voulait vraiment que ce soit une incarnation. D'ailleurs, les Thompson parlent pas de biopic, mais vraiment de fiction. C'est
ouais.
Une autre point de vue, c'est mon interprétation à moi sur cette femme.
Ben oui.
C'est ce qu'on a essayé de faire.
C'est pour ça que je parle justement d'appropriation, de s'être approprié justement, et de comment on s'approprie des fois une chanson et on la réinterprète un peu.
Je suis contente
à
que
sa façon, c'est dingue
parce
quoi.
Parce que c'est vraiment ce qu'on a recherché. Je pense que ça n'a pas été très intéressant, surtout pour quelqu'un comme Brigitte Bardot, de la copier en fait. Voilà, Bardot qui est quelqu'un tellement d'authentique, tellement sincère, et où les choses se font tellement viscéralement quoi chez elle, qu'il fallait qu'elle soit aussi en fait pour la personne qui allait l'interpréter. Et donc forcément, c'est quelque chose qui vient et qui émane de moi. Sa vérité à elle, je la retranscris, mais de mon point de vue à moi, de mon interprétation à moi. Et ce sera jamais la sienne en fait. C'était important.
Bon.
Et d'autant plus encore une fois pour interpréter Brigitte Bardot.
On apprend plein de choses sur la femme qu'elle était évidemment à cette époque-là.
Ouais.
On apprend plein de choses sur sa jeunesse qui n'a pas forcément été facile. On apprend vraiment énormément de choses dans cette fiction, et c'est ça que moi j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a découvert des choses méconnues justement sur cette icône. Et aujourd'hui, moi, vous voir justement dans cette série tourner des scènes à Saint-Tropez, de Dieu créa la femme, et de reprendre justement un peu ça. Vous avez dû vivre ça de façon assez dingue, de vous retrouver au même endroit qu'elle, plus de 50 ans plus tard, à essayer de retourner les mêmes scènes, à s'approprier ce rôle. Ça a dû être assez dingue de se retrouver comme ça à Saint-Tropez.
Ah oui, c'est dingue. Et surtout que je pense, ce qui a participé aussi à ce vertige-là et à ce qu'on y croit, c'est évidemment les décors, les costumes, tout ça participait à recréer, essayer de recréer cette réalité-là. Donc c'était, il y avait un côté un peu. Alors moi, parfois, j'avais l'impression de dépersonnaliser tellement.
Ben oui.
C'était incroyable de revivre ça.
Et puis là, de se dire, elle est à quelques kilomètres de nous, quoi, en plus. C'est ça le pire aussi. Ça doit être assez dingue.
Oui, en plus. Ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est un peu vertigineux de se dire que Brigitte Bardot était pas loin de tout ça. Ouais.
Bon, en tout cas, il y a un casting incroyable, c'est ce qu'on se disait, hein. Je pense à Michael Mittelstadt, mais je pense bien sûr aussi à Victor Belmondo, à Fabien Wolfram qui nous parlait déjà il y a quelques semaines justement de cette expérience qu'il avait vécue dans la peau de Sacha Distel, mais voilà, c'est le casting est fou quoi autour de vous là.
Ah mais oui, Oscar Le Sage, Jacques Charrier, Noamel qui joue Jean-Louis Trintignant et bien évidemment aussi les ceux qui jouent mes parents, Géraldine Pellas, Hippolyte Girardot, c'était dément. Jamais de ma vie, un jour, j'aurais cru pouvoir être la réplique de ces acteurs que j'admire. C'est dingue.
Quel sera le plus beau souvenir pour vous de ce tournage? Qu'est-ce qui restera dans 10, 20 ans quand on vous reparlera justement peut-être de Bardot? Vous vous direz quoi à ce moment-là?
Je crois que c'est ces rencontres avec tous ces gens, avec les Thompson, avec ces acteurs, cette équipe. C'était ma première fois, c'était ma rencontre avec le cinéma. Est-ce que c'était qu'un tournage? Et c'est un tout en fait. J'ai absolument tout découvert de ce que c'était qu'un tournage et que de travailler en équipe et de rencontrer des gens et de en plus du coup s'attacher très vite aux gens, parce que ce qui est assez étrange, c'est que on rentre dans une forme d'intimité très rapidement avec les acteurs, ses partenaires, parce qu'on vit des choses très fortes ensemble Et c'est marrant sans se connaître non plus. C'est pas des gens de ta famille qui connaissent ton histoire. Mais à travers ces histoires-là, est-ce qu'on joue? Il y a une intimité qui se crée forcément entre les acteurs et entre toute cette équipe. Et ça, c'est, ça, je l'ai découvert. Donc, c'est une expérience humaine avant tout magnifique. On n'oublie pas. Ouais.
Merci infiniment.
Merci
Bardot.
Merci.
Le final, c'est ce soir. C'est sur France 2 à 21h10, juste après Un si grand soleil. Ne le ratez pas. Avec Julia de Nunez et plein d'autres mondes autour. Voilà, vous allez voir, le casting est complètement dingue. Et si vous n'avez pas vu les 4 premiers épisodes, vous pouvez, eh bien, vous les rattraper sur France.tv. N'hésitez pas, en tout cas, à aller découvrir cette mini-série événement. Merci beaucoup, Julia, et à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, et tout de suite, la bande annonce.
J'ai rompu mon contrat hier.
Mon amour,
t'aurais dû le laisser partir faire son tournage. On aurait été beaucoup plus tranquille.
Vous croyez vraiment qu'elle est capable de jouer ce personnage?
Pour moi, la vérité, c'est Clouseau, Bardot.
Vous vous aimez pas. Mais la caméra vous aime, c'est ça le problème.
C'est votre gagne-pain, Brigitte. À vous et à tous ceux qui sont ici, d'ailleurs.
Ok pour la une. Et en titre, bébé attend un bébé.
Je me sens si seule, Lucienne.
Laisse-moi, je vais mourir! J'ai le droit!
Non! Tu n'as pas le droit!
Moi, il l'a fait pour nous et maintenant il va mourir.
J'accoucherai où je veux. Jacques sera près de moi, avec moi.
Allez, notre coup de cœur télé s'intéresse toujours à HPI. On adore cette série, évidemment. Jeudi, vous allez voir la suite de la série. On va faire un petit focus sur le personnage de Daphné, qu'on adore, nous, personnellement. Et c'est Bérangère McNeice qui est avec nous en ligne. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Non, mais comment on se remet d'un succès pareil quand on a la chance dans une carrière d'avoir une série qui aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout, attire quasiment 10 millions de téléspectateurs? C'est incroyable.
Bah oui, c'est incroyable. C'est incroyable et en même temps, c'est marrant parce que 10 millions, c'est tout ce que j'en sais, c'est que c'est vraiment beaucoup. Mais après, c'est très difficile à se figurer tellement c'est beaucoup. Donc, ça reste un peu abstrait. C'est plus dans des événements un peu plus concrets quand on fait des projections et que le premier rang est divisé en Morgan Alvaro et qu'on voit le nombre de gens qui sont enthousiastes. C'est vrai que c'est assez fou, quoi. C'est une incroyable aventure.
Alors, c'est assez choral, toutes les scènes que Daphné a là. C'est souvent avec Gilles, avec Karadec. Et du coup, il y a des scènes qui sont souvent assez drôles. Et on va dire qu'on a retrouvé une Daphné dans les deux premiers épisodes pour l'instant qu'on a vu. Pas très accueillante, hein, on va dire, avec le petit nouveau qui était censé remplacer Morgane, hein, finalement.
Tout à fait, avec Timothée. Bah, en fait, oui, c'est ce qui est, je pense que c'est ce qui est un peu le paradoxe de Daphné, c'est que pendant les deux premières saisons, on a bien vu que même s'il y avait un attachement avec, qu'elle avait une forme d'affection pour Morgane, c'était hyper difficile pour elle de l'accueillir vraiment dans l'équipe parce que des façons de faire qui sont hyper opposées. Daphné, c'est quelqu'un d'assez procédurier et qui veut bien faire. Et Morgane arrive et elle fait ça complètement différemment à sa sauce, en respectant aucune des procédures. Donc, Daphné, ça la rend un peu dingue. Et pour autant, maintenant qu'elle est plus là, Morgane, Morgane lui manque, quoi. Et elle a du mal à accueillir quelqu'un qui viendrait la remplacer. C'est le début de cette affection qu'on va commencer à vraiment avoir en saison 3.
Ouais. Et moi, j'ai adoré, c'est ses regards. On aurait dit qu'elle avait les mitraillettes dans les yeux quand elle regardait Timothée. Il y a eu des scènes qui étaient vraiment très, très drôles où vraiment, elle se retourne. C'est limite, regarde-moi dans les yeux, je vais te fusiller, quoi.
Ouais, c'est génial d'accueillir un nouveau personnage qui, en plus, est joué par Jeremy Lewin, qui est vraiment un acteur incroyable. Parce que ça ramène du sens frais et puis, en même temps, des nouveaux enjeux, des nouveaux rapports avec des nouveaux personnages. Et c'est vrai que le personnage de Timothée, on va le voir dans toute la saison, a vraiment une importance assez capitale et très très marrant.
Bon, à la fin du deuxième, jeudi dernier, on a vu que ça y est, Morgane est sortie de prison et voilà, se tâte, hein, va-t-elle revenir en tout cas au sein de vos enquêtes? En tout cas, elle en a bien envie, on le sent.
Avec son nouveau tatouage.
Ouais, avec son nouveau tatouage. Oh là, et là le tatouage, c'est excessivement drôle. Alors vous l'avez vu à la fin de l'épisode du deuxième épisode, fuck la police, hein. Bon, c'est Morgane, quoi, dans toute sa splendeur. Elle arrive à vous faire garder votre calme et puis votre sérieux quand vous la voyez comme ça déballer des scènes de cette force-là pour le coup.
Dans la vie, vous voulez dire, en tant que comédienne?
Ouais, en tant que comédienne et sur le plateau, parce que ça doit être difficile de garder face à une Audrey Fleurot qu'en donne autant, de garder des fois son calme et de pas rire finalement.
En fait, c'est la chance qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre quand même, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses, on a le droit de créer un peu sur base du texte. Et ça, c'est quand même assez rare, surtout dans une série qui est quand même assez attendue et donc pour laquelle on pourrait imaginer qu'il y ait moins de liberté. Et c'est pas du tout le cas. Donc au contraire, que ce soit avec Audrey ou avec Bruno ou avec Mehdi, enfin il y a mille et une façons de s'amuser sur ce plateau et c'est ok en fait, c'est complètement toléré. Donc c'est quand même une chance, ouais. Ça s'amuse bien.
Je comptais, en 3 ans de temps, Bérangère, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de tournant depuis le confinement et depuis le Covid, qui, j'ai l'impression, vous a tourné chance. 5 longs-métrages, 7 séries différentes. Alors, des longs-métrages, je vais parler d'En effet pour s'entendre, parce qu'on avait reçu Pascal Elbé, notamment, mais je pense à des séries comme Face à Face, comme Braqueur pour Netflix, ou encore Lycée Toulouse-Autrec qu'on a vu en janvier dernier. C'est vraiment, depuis 3 ans, il y a eu un tournant dans votre carrière, là.
Ouais, c'est rigolo. En fait, c'est assez étonnant, mais ça fait quand même assez longtemps que je tourne, parce que j'ai commencé étant enfant, donc
c'est clair.
Ça a toujours fait partie de
ma vie. Ben oui, c'est ce qu'on voit, hein, quand on regarde la filmographie. Ouais. Ça a démarré quand même il y a plus de 10 ans, quoi.
Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que ce confinement, le premier a été beaucoup plus calme et plutôt l'occasion d'écrire, et le deuxième, c'était assez fou. Ça a commencé à être assez fou. Il a commencé à avoir pas mal de tournages. Alors, je sais pas, il y a certainement un effet boule de neige de, bah, par exemple, HPI qui amène d'autres choses, etc. Mais même avant HPI, ouais. C'est rigolo de voir comment il y a des moments comme ça dans une vie professionnelle où ça s'accélère. Et puis, j'imagine qu'il y a des moments où ça se calme aussi, et c'est très bien, en fait. Moi, j'accueille ça avec joie maintenant, parce que je m'amuse beaucoup. Puis c'est, bah, vous le disiez, il y a beaucoup de choses différentes, quoi. Entre Braqueur, HPI, Des gens bien sur Arte, c'est vraiment des programmes très, très différents. Et donc, ouais, je m'éclate.
Moi, je vois dans votre filmographie des réalisateurs, des comédiens qui ont dû changer un peu les choses, le cours, justement, de votre existence, qui ont dû vous marquer dans votre carrière. Je pense à Nicolas Cuche, qu'on connaît bien. Je pense à Alain Tasma, je pense à plein de monde. Et quelles sont, justement, ces personnes qui ont changé un petit peu tout ça?
Il y en a quelques-uns, c'est difficile de citer tout le monde, parce qu'en fait, c'est pas forcément, enfin, je veux dire, ça peut être des occasions qu'on me donne de faire ma place, mais en même temps, ça peut aussi être juste, enfin, je peux citer par exemple Stéphane Degros sur Toulouse-Lautrec, qui, juste m'a hyper bien accueilli sur le plateau, alors que moi, je venais pour faire part, enfin, je suis que dans un épisode, etc., qui était hyper positif et bienveillant et génial. Enfin, ça peut être des très petites choses, quoi, en fait, qui font que on se sent à l'aise et voilà, et puis qu'après, on a envie de continuer, etc. Et puis, oui, bah, de l'entassement, c'est sûr que c'était une expérience incroyable de faire sauter les films, ça fait le viol. Donc, pas une comédie, pour le coup, quelque chose d'assez intense, basé sur une histoire vraie, qui se passe dans les années 70. À Marseille. Voilà, c'est un programme qui moi a pas mal changé aussi ma vision de mon métier, parce qu'une fois qu'on raconte une histoire aussi importante, c'est assez difficile d'envisager de ne plus le faire, en fait. On a envie de raconter des choses qui comptent, quoi, et raconter des moments de l'histoire qui ont un peu changé le cours de l'histoire, notamment pour les femmes, parce que c'est toute l'histoire du procès où elles étaient défendues par Gisèle Halimi. Donc enfin, voilà, c'est des choses qui étaient vraiment importantes, et ça, c'était une expérience incroyable aussi, ouais.
Alors, vous serez à l'affiche aussi du prochain film d'Olivier Van Hoogstadt aussi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée qui sortira bientôt au cinéma. Il y a d'autres projets aussi pour la suite, et puis une nouvelle saison, j'imagine, la quatrième est déjà en écriture de HPI, mais j'ai l'impression que c'est bien parti encore là pour 2024, 2023, 2024, Bérangère.
Ouais, il y a plein de choses. Ouais, il y a pas mal de nouvelles saisons de choses, mais donc je suis pas tout à fait sûre de ce que je peux vous dire ou pas. Dans le doute, moi, j'aime rien, parce que j'ai tellement peur d'avoir un coup de fil par la suite, mon gueule. Donc, mais il y a plein de choses. Il y a d'autres projets aussi, du long métrage, du docu-fiction, plein de choses différentes. Ouais, ça va encore être une année assez remplie.
Bon, et si on devait terminer par un des meilleurs souvenirs de Daphné? Du personnage de Daphné, pour le coup, une scène qui vous a marqué sur ces 3 saisons et vous avez adoré, en tout cas, jouer et faire.
Bah, plus qu'une scène, il y a un épisode qui va arriver là dans cette saison, qui est, je crois, l'épisode 6, où Morgane et Daphné partent enquêter ensemble. Donc, Daphné sort de la DPJ et part enquêter avec Morgane. Et donc,
ça a dû vous faire du bien.
Oui, c'est sûr, ça fait du bien. Et puis, c'est encore plus génial de s'amuser, ouais, sur le terrain, sur d'autres décors, avec d'autres comédiens. Enfin, on croise plus de monde, c'est assez cool. Et donc voilà, je pense que cet épisode-là, je crois que c'est peut-être bien mon préféré de tous les épisodes de HPI.
Ah, voilà. On le verra d'ici 3-4 semaines en juin, évidemment sur TF1, qu'on le découvrira.
Ouais.
Exactement, c'est le cinquième, hein. C'est le sixième, hein, c'est ça, de la saison?
Le sixième, c'est mon préf.
Ouais, donc on ne l'a pas encore sur MyTF1 Max, hein, on a jusqu'au 5 hein, pour l'instant sur MyTF1 Max. Hein, on vous rappelle, si vous avez envie de voir HPI en avance, vous avez jusqu'au 5e épisode pour l'instant sur MyTF1 Max, que vous pouvez voir donc du coup sur la plateforme de TF1. Merci beaucoup en tout cas, Bérangère, d'avoir été avec nous. On va suivre les aventures de Daphné, de Morgane, Karadec, Gilles et tous les autres. Ça sera jeudi à 21h10 sur TF1, la suite tant attendue de cette 3e saison inédite. Merci beaucoup et à très bientôt, Bérangère.
Merci à vous, Alain.
T'es relou aujourd'hui, mon. C'est la reprise du boulot qui te met comme ça. Ça te stresse?
Tout court.
Pas du tout stressé, hein?
Bah, c'est ça, ouais. Donc, rebosser avec Super Poulet, aucun problème.
Hein? Vraiment?
Merci. Attends, un petit check. Grosse réunion là ce matin.
Tu dors ici ce soir?
Ah non, ce soir je reste chez moi. Demain je me lève hyper tôt, faut que je dorme. Puis là le squat, je crois que ton frère commence à en avoir marre.
Je pense qu'en tant que coloc, il te trouve bien plus cool que moi. Oui Gilles.
Commandant, on a un homicide à l'île sud. Je t'envoie l'adresse.
Ok, je te rejoins là-bas. Tu préviens Morgane?
Ok, à tout à l'heure.
À tout de suite.
Morgane est de retour.
Bah ouais, elle nous rejoint cette semaine.
Ah?
Je te l'avais pas dit.
Non. Non, je crois pas.
Ah bon, bah j'ai dû oublier.
Et notre coup de cœur télé est consacré à un si grand soleil et on va parler d'un personnage qui vient d'arriver il y a pas très longtemps justement dans la série mais qui fait déjà beaucoup de bruit, François Lomière qui est incarné par Jérémy Covillo qui est justement avec nous en ligne. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Jérémy, ce rôle de François Lomière. On sait pas sur quel pied danser finalement avec François Lomière. C'est ça qui doit être intéressant à jouer.
C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est intéressant. C'est un personnage assez complexe, même s'il a l'air un peu brut de décoffrage comme ça. On a matière à travailler sur un personnage comme ça. C'est plutôt c'est très intéressant.
Alors,
c'est très amusant.
Il est arrivé dans le contexte où Evan veut monter sa clinique et cherche des investisseurs. Et après, Elisabeth Bastide, il s'est tourné vers ton personnage. Justement, Jérémy, il se trouve que son assistante à l'hôpital, c'est ta fille. Et donc, c'est ta fille qui va faire un peu, on va dire, l'entremetteuse entre les deux hommes. Et donc, on a vu, voilà, la semaine dernière, tout ce qui s'est passé. Puisqu'en même temps, la femme d'Evan, elle, va le tromper avec Marc. Evan va noyer son chagrin avec Laurine, enfin bref, tout ça, c'est un joyeux bazar, mais cette clinique en tout ça, on sait pas trop en fait s'il est bien pensant ou s'il cherche plutôt les ennuis, ce François, vraiment quand même, hein. On a l'impression qu'il est un peu ambivalent. Hein.
Oui, mais c'est ça qui est, encore une fois, c'est ça qui est plutôt drôle et intéressant à jouer. En même temps, je trouve que dans son discours et dans sa façon d'être, il est plutôt très clair, c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent.
Ah bah oui.
Trouver des façons, des moyens de faire de l'argent quoi qu'il arrive. Comme il le dit dans une séquence qui a été diffusée déjà avec Evan, quand ils sont au restaurant tous les deux, avant qu'il lui fasse tout son speech assez infâme et ordurier sur les femmes, il lui dit clairement, moi ce qui m'intéresse c'est l'argent, je me fous de votre...
De votre clinique.
En gros, je me fous de la clinique.
C'est ça.
Ce que je veux savoir, c'est si on va faire du blé ou pas. Donc, il est plutôt très clair dans ses intentions professionnelles, on va dire. Ensuite, ce qui est intéressant avec François, et ce qui est assez jubilatoire à jouer, c'est évidemment tout son côté misogyne, infâme. J'ai lu des commentaires déjà sur les extraits qui ont été diffusés, notamment cette scène avec Evan, justement.
Ouais.
Ou les commentaires. Enfin, je commence à être déjà d'ores et déjà détesté. Mon personnage, en tout cas.
C'est bon signe, c'est que t'as fait bien ton travail.
Bah, d'une part, ça prouve que effectivement,
on y croit.
Le personnage.
Ben oui.
Et d'autre part, je trouve ça très drôle, moi, d'être détesté. Je trouve que les personnages, c'est déjà assez génial à jouer. C'est très libérateur, c'est très amusant à jouer des personnages comme ça. Je ne suis évidemment pas comme ça du tout dans la vie. Les gens
non, moi qui te connais un petit peu, c'est vrai. T'es complètement le contraire en plus. C'est clair.
Pour mettre les choses en place, mais quand je lis certains commentaires, on se demande si les gens ne font pas forcément la différence. Ils voient le personnage, donc je suis assez détesté. Et je trouve ça assez marrant, finalement, jouer des personnages que les gens aiment détester. Je trouve ça plutôt très drôle, quoi. Donc, en gros, pour en revenir à la clinique, ses intentions sont assez claires. C'est-à-dire, encore une fois, lui, il veut faire du blé, il veut faire de l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est un homme d'affaires impitoyable. L'autre jour, je parlais avec un pote qui a fait une référence qui m'amuse beaucoup et qui a fait la référence à JR dans Dallas.
Oui.
Voilà, c'est ce genre de personnage, en tout cas, impitoyable, requin, et qu'on aime détester, et qui arrive malgré tout, par moments, à être, je l'espère, un peu charmant. Voilà.
Donc, qui est assez dur avec son fils. Beaucoup plus peut-être avec sa fille qu'il pousse un maximum, mais et la relation entre son fils et lui est pas évidente en plus. Hein.
Oui, moi je le prends. Enfin, ce qui est intéressant encore une fois, c'est de les mettre. Il les met en concurrence systématiquement. Il promet à sa fille qu'elle sera à la succession des affaires, et finalement d'un seul coup il la regarde en disant, ton frère aussi, pourquoi pas, etc., etc. Donc tous les deux se foutent en concurrence. Mais il y a un jeu pervers. Hein, et c'est un pervers de toute façon dans toutes ces relations. Et encore une fois, c'est très amusant. Et j'ai un super rapport avec mes partenaires, avec les deux acteurs qui jouent mes enfants. Avec Jules et Elena, au contraire, on s'entend très très bien et on s'amuse beaucoup à jouer ce petit jeu, quoi.
Est-ce que tu es là pour un bon moment ou est-ce que c'est passager? T'es venu là pour faire un guest. Qu'est-ce que toi serait, en tout cas, si tu peux pas nous répondre à cette question, qu'est-ce que serait ton désir? Est-ce que t'as envie de t'installer dans la série à long terme ou plutôt d'accepter une mission d'être là pour 2-3 mois pour un guest un peu événement?
À la base, je pense que c'était le cas, c'est-à-dire que je pense que j'étais venu pour faire un guest pour 2-3 mois. Il se trouve que moi, je m'amuse beaucoup, que le travail qu'on fait tous ensemble a l'air de porter ses fruits et de plaire. Donc, je peux pas encore dire si je suis là pour longtemps ou pas. C'est un petit peu en discussion, on va dire. Moi, ça me ferait très plaisir de rester dans la série, de m'installer. Alors, en même temps, moi, je ne fais pas que ça en ce moment. Je tourne la saison 3 des
Invisibles. Les Invisibles pour France 2, oui.
De Ronald Cisterra. Je joue au théâtre à Paris en même temps. J'ai d'autres projets pour la rentrée au théâtre. En série également, enfin en tournage. Donc voilà, on va voir comment les choses évoluent. Je pense que va y avoir des discussions d'ici peu. Et mais si il est question de s'installer un peu dans la série et de rester pour un moment, moi je serais absolument pas contre et j'en serais absolument ravi si on arrive à tout concilier et faire en sorte qu'on puisse travailler tranquillement tous ensemble. Voilà.
Alors, je crois que tu vas me dire si je me trompe, hein. Tu as été dans Sous le Soleil, dans Seconde B, quelques séries comme ça, un peu quotidiennes, mais c'est la première vraie grosse quotidienne. Est-ce qu'au niveau du rythme de tournage, de l'intensité de travail, est-ce que ça change quelque chose par rapport à toutes les autres séries dans lesquelles tu as pu jouer? Je pense au Papillon Noir dernièrement, par exemple, pour Arte, ou au Voyageur dernièrement aussi, pour France 3.
Ouais, alors, Sous le Soleil, j'ai fait deux ou trois épisodes à l'époque, si je me souviens bien. Je te parle de ça.
Mais le rythme était hyper soutenu, là, c'est pareil. Non.
Oui, c'était soutenu, mais pas autant si mes souvenirs sont bons. C'était j'ai déjà été sur des sitcoms, j'ai déjà été sur des séries où le rythme était assez soutenu. Là, il y a une façon de travailler un petit peu particulière. C'est vraiment, je vais pas dire une usine parce que c'est pas le cas. On prend quand même le temps de travailler. On travaille avec des réalisateurs formidables, plein de réalisateurs différents. Je rencontre des nouvelles équipes et des nouveaux réalisateurs. Pas tous les jours, mais presque. Donc c'est très agréable. Il y a des façons de travailler avec certains réalisateurs. Il y a des coachs, il y a des équipes différentes, etc. Donc faut s'adapter très vite.
Ouais.
Faut être précis, faut être prêt. C'est une super école. Enfin, je trouve que encore aujourd'hui, j'apprends encore en travaillant sur des séries comme ça. Il y a un vrai travail avec les comédiens, avec les coachs, avec les réalisateurs, avec les équipes. Tout le monde veut faire du beau boulot. Je trouve que ça se ressent même à l'image, au résultat. Et encore une fois, pour un acteur, c'est super agréable. Mais c'est pas du tout la même façon de travailler que sur des séries, sur des 52 minutes ou des 90 minutes qu'on fait pour la télévision, comme Le Voyageur. Le Voyageur, c'est on est en extérieur tout le temps. Il n'y a pas de studio. C'est vraiment comme si on tournait un téléfilm. On n'a pas du tout les mêmes temps de tournage. C'est pas les mêmes cadences, etc. Là, effectivement, sur Un Si Grand Soleil, il faut être très très prêt, très précis, mais c'est très agréable en même temps. Enfin, il y a une équipe d'acteurs formidable. Je pense à Catherine Wilkening, qui est une de mes partenaires principales aussi dans la série, qui joue Claudine. On s'entend parfaitement. C'est un plaisir de travailler ensemble.
Mais ça se ressent. Voilà. Bon, Les Invisibles, en tout cas, saison 3, si je m'abuse, que tu es en train de tourner actuellement, où tu vas reprendre le costume de Cisterra.
Oui, dans un nouveau poste. Hein. Maintenant, il est devenu commissaire.
Ça rigole plus.
Donc, ouais. Ça lui permet d'être encore plus désagréable et méchant. Ça reste un bon flic, évidemment, mais c'est Mais il se passe plein de choses. C'est très riche. La saison 3 sur Les Invisibles, elle est très riche. Il y a beaucoup de choses entre Darius et Cisterra, justement. On explique un petit peu aussi le passif, ce qui leur est arrivé avant, pourquoi Cisterra est aussi méchant et aussi et on veut autant à Darius. Donc c'est très intéressant. On prend beaucoup de plaisir aussi avec Chris Briand et Chloé Micou, les réalisateurs. Et évidemment, l'équipe des Invisibles. Ça, c'est un plaisir. C'est une série que j'adore tourner. Une équipe que j'affectionne particulièrement aussi. Voilà.
Eh bien, écoute, on va te laisser retourner sur le tournage. Je sais que tu t'es échappé quelques minutes des caméras pour nous. Alors, on te remercie infiniment, en tout cas, Jérémy, d'avoir été avec nous pour nous parler un petit peu de tous ces projets. Tu reviens quand tu veux, en tout cas.
Ben, quand tu veux, toi.
Eh ben, allez. Voilà. On se donne rendez-vous pour la diffusion des Invisibles. On va te laisser la tourner tranquillement et puis on revient vers toi pour le lancement de la saison. Promis.
super. Merci beaucoup. À très
merci
bientôt.
À toi. Merci beaucoup, Jérémy. À très vite. Et on va se quitter. Tiens, avec un petit extrait d'Un si grand soleil. Pour notre plaisir, c'est du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.
Je vais vous laisser dans de très bonnes mains. C'est Claire qui va vous faire la prise de sang.
Bonjour. Je t'appelle pour te dire que je vais au ciné avec Aurélie ce soir.
Mais bien sûr. Très bien. Tu couches avec qui tu veux.
Ok.
Ça va, c'est un grand garçon qui ira, il s'en remettra.
Vous êtes Evan Cresson, le mari de Chloé Cresson?
Oui, vous êtes.
Allez, ne bougez pas, Magali va aller nous rejoindre dans un instant dans Chute en écoute la télé. On va parler de la sortie de son nouvel EP. La grande gagnante de la Starac 5 reviendra également sur le retour de l'émission. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute en écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute en écoute la télé.
Un rêve ou un mauvais film, une italienne, il était son homme, son essentiel, lui il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu quel dégoût, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un j'étais bête, lui pas mal habile, mais malhonnête. Mamma mia, que j'étais bête, mais me voilà libre. Je serai la reine son roi. Oh oh, je serai la reine son roi. Oh oh, et peu m'importe toi. Oh oh, et peu m'importe toi. Était-elle aveugle ou bien débile? Est-ce que chaque homme est un animal? Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche. Quand tout à coup, mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal. Un animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Le problème, je me demande si c'est moi qu'on prenne la cocu qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi.
Bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Allez, on va parler un peu musique pour terminer cette émission avec Magali Vahey. Rappelez-vous, c'était la gagnante de la Starac 5. Bonjour Magali, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci, avec plaisir.
Eh bien écoute, c'est la deuxième fois qu'on t'accueille dans l'émission et c'est toujours en tout cas un plaisir. Alors on va attaquer un petit peu ton actualité d'ici quelques instants puisque tu viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle MV. Tu vas nous le présenter puisqu'on va d'ailleurs en diffuser aussi deux titres. Mais déjà, la première question que j'ai envie de te poser, quel regard tu as posé sur ce grand retour de la Star Academy? Est-ce que c'est à la fois un brin de nostalgie et à la fois un bonheur de voir revenir cette émission qui t'a fait découvrir au grand public?
Je pense que c'est un peu des deux. C'est surtout en revoyant le château habité. Ça m'a fait très, très bizarre. L'ouverture du château le premier soir, ça a été un grand vent d'émotion qui est arrivé. Et puis non, mais revoir vivre cette émission dans les années 2020.
C'est ça.
Voilà, avec bah oui, c'est ça, avec forcément notre emblématique Nikos, et en même temps bah des tout jeunes candidats qui on l'a bien vu, ne sont pas du tout comme nous à l'époque. Et ils avaient l'air beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'est les réseaux sociaux qui font tout ça.
Oui, il y a les réseaux sociaux. Il n'y a pas de smartphone à l'époque. Hein. Je rappelle que c'est pareil. Alors, si hein, vous aviez à peine de téléphone.
Ouais, c'est ça. C'était le début des smartphones. Mais nous, on était encore à MySpace à l'époque.
C'est alors, ça.
Voilà. Il n'y a que les moins de 20 ans qui ne connaissent pas. J'ai besoin.
mais c'est vrai que parmi vous, il y a cette nostalgie du château. Et malgré que la dernière saison sur TF1, la 8, s'était déroulée dans un hôtel particulier à Paris et que celle d'Energie 12 s'était déroulée également ailleurs. Elles n'ont vraiment pas reçu le même succès qu'une saison au château de Damary-les-Dix, qui est pour moi vraiment un personnage à part entière de cette émission, quoi, un membre de l'émission.
Mais bien sûr, il y a deux personnages importants à la Starac, c'est le château et Nikos. Et s'il n'y a pas le château, ça marche pas. S'il n'y a pas Nikos, ça marche pas. C'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre.
Bon, en tout cas, c'est toujours avec bonheur qu'on te reçoit et surtout que tu continues ton bout de chemin. On aura l'occasion de te découvrir d'ailleurs en concert tout au long de l'été dans les campings paradis qui vont t'accueillir un petit peu partout en France. Mais on va parler d'abord avec Tiad et on va parler d'ailleurs de cette EP. Est-ce que c'est déjà le signe un peu annonciateur d'un futur album, Magali ?
Seul le futur le sait, voilà. Seul le futur le sait, moi je suis beaucoup dans le présent. Donc pour l'instant c'est l'EP, j'espère bien sûr que ça pourra se transformer en album, c'est le public qui va décider, voilà, c'est un peu ça, on verra l'avenir que lui réserve le public.
Alors comment il a été construit d'ailleurs cet EP ?
Bah, en fait il a beaucoup changé au fil du temps parce qu'à la base il était prévu il y a quand même 2-3 ans, mais un certain virus nous a un peu embêtés puisque le premier single de l'EP en fait est sorti il y a 3 ans, c'était Des Pleurs, donc une chanson que j'ai écrite et composé par Sébastien Dujardin, donc il est sur cette EP, mais les autres titres qui étaient prévus ont changé au fil du temps, parce que bah, j'ai changé, je pense que tout ce qu'on a vécu, ça nous a changé, et le message que je voulais passer a changé. Donc je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif, voilà. Je voulais vraiment du positif dans cette EP, et du coup voilà, j'ai eu la chance voilà, de faire des rencontres qui ont fait que bah, tous ces titres sont nés. Gérard Capaldi, Johan Zerneski, Franck Coty, voilà, c'est les personnes avec qui j'ai travaillé pour les autres chansons de cette EP, est né MV. Après, ouais, c'est ce que je dis, MV, ça veut, forcément, on se dit, ça veut dire Magali Veil. Oui. Mais en fait, chacun peut se faire sa description.
Exactement.
Chacun peut donner le titre à l'EP comme il veut.
Si je comprends bien, c'est un peu l'EP qui reflète le plus ton humeur du moment, du coup.
Ah, mais toujours, toujours, en fait. Quand je sors quelque chose, je veux qu'il me ressemble au moment T. Il y a que le premier album, c'était encore je tâtonnais. Voilà, j'étais toute jeunette. J'ai été très bien aiguillée par Rick Allison à l'époque, mais voilà, je savais beaucoup moins ce que je voulais. Aujourd'hui, ça soit le deuxième EP ou aujourd'hui, je savais ce que je voulais. Et là, je suis dans une période où j'ai envie de faire sourire les gens. J'ai envie qu'ils oublient ce stress du quotidien, ces mauvaises actualités. C'est le but recherché, voilà, les faire sourire.
Eh ben, écoute, je vais faire un jeu de mots justement pour tout de suite rebondir sur ce que tu viens de dire parce que le monde est en train de devenir complètement fou, on est d'accord. Et si ça continue comme ça, on va tous devenir fous. Et c'est le titre, le premier titre de cette EP qu'on va écouter tout de suite. On revient juste après avec toi, Magali.
Oui.
À tout de suite.
Je veux respirer, tout laisser derrière. Il faut rayonner, loin de nos galères. Oublier ses rancœurs et se sentir bien. Oh, de mille couleurs. Partager sans fin et faire son chemin sans regarder derrière, tout droit sans prendre un chemin de travers. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh.
c'est terminé. Il laisse tout derrière. Tu peux respirer. Loin de leurs prières. Prends de la hauteur. Et respire à fond. Donne avec ton cœur. Et prends ce qui est bon. Et suis ton chemin. Sans chercher de signes. C'est entre tes mains que tout se décide. Oh, oh. Il faut s'envahir de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Pour se sentir bien, loin de tous les bruits, de ces gens malsains qui bavent sur ta vie. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Ne plus hésiter à devenir fou. Puis c'est bon d'être fou. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Il faut devenir fou. Eh oh, eh oh. Ouh, eh oh, eh oh. Devenir fou. Eh oh, eh oh. Et nos joies partout. Et nos joies.
Voilà, devenir fou, c'est le premier extrait qu'on vous fait découvrir du nouvel EP de Magali Vahe. Et d'ailleurs, le clip vient tout juste de sortir depuis mercredi dernier. Vous pouvez c'est découvrir ça. En image, en tout cas, ce très beau titre que l'on vient de vous présenter. Dans mais on va vous faire découvrir YouTube. Aussi un deuxième extrait d'ici quelques instants, évidemment, Magali. Mais devenir fou, si on doit raconter un petit peu l'histoire de ce titre qu'on vient d'écouter là.
Vu que c'est le titre phare de l'EP, c'est vraiment ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire... On veut oublier tous nos problèmes, que ça soit les problèmes personnels, les problèmes de la vie en général, même des problèmes qu'on a pu avoir dans le passé, qui des fois, voilà, nous parasitent encore un peu, même des années plus tard. Il faut juste lâcher prise et sourire et profiter du moment et s'enjailler. Voilà, c'est exactement dans la chanson et s'enjailler.
Alors, pendant tes tournées, l'été, tu es en duo avec Tiad, votre duo, il est ultra drôle, vous faites des vidéos. À chaque fois que vous allez arriver dans un camping, vous faites des vidéos, mais c'est hyper drôle. Mais à chaque fois, moi, je rigole quand je vois ça. Et je me dis, mais ils ont une façon très drôle d'annoncer leur arrivée quand même.
C'est venu vraiment par hasard. Au début, on a fait une vidéo pour annoncer le tout premier camping de l'année dernière. Et puis, on y a mis une petite touche humoristique, mais légère. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, on a été un peu plus loin, puis un peu plus loin. Et puis, on a vu que ça plaisait, donc on était contents. Donc, du coup, on a été encore plus loin. Et maintenant, on essaye de trouver déjà des idées pour cette année. Parce que, bien sûr, nous allons...
Vu que t'as une sacrée tournée, on va vous donner quelques dates. Vous allez voir qu'elle va pas chômer, Magali, avec Tiad cet été. Hein.
Ah oui, non, on en a encore plus que l'été dernier. Et on est ravis de retourner sur la tournée Paradis des Stars, des Campings Paradis, de refaire ce voyage et toutes ces belles rencontres. Parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu l'année dernière, que ça soit au niveau du public, des équipes. Puis la beauté des paysages qu'on peut voir au fur et à mesure de nos routes aussi. C'est vraiment une belle aventure. Très, très belle aventure.
Oui, parce que c'est ça aussi, c'est la rencontre du public. Parce que dans ce métier, on le sait tous, c'est voilà faire être gagnante de la Starac, faire des titres, c'est assez facile au départ, on va dire, quand on gagne une émission comme ça. Mais le plus dur, c'est de rester. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, tu t'aperçois que le public ne t'a pas oublié, que dans les campings, les gens viennent te voir. C'est incroyable. Et oui, 18 ans. Ben oui, 2005, 2023. Faut que j'apprenne à calculer quand même, Magali, t'as raison.
C'était au mois de septembre. Ça fera 18 ans.
Mais oui.
Mais bon. Voilà, quelques mois après.
La majorité en septembre.
Voilà, c'est ça, on devient majeur cette année.
Non mais c'est dingue, comment t'expliques ça?
c'est inexplicable et en même temps, chaque jour ça me surprend, mais chaque jour ça me touche énormément de voir que 18 ans après, malgré le fait que on me voit pas beaucoup, c'est vrai que je passe pas beaucoup à la télé, je ne passe quasiment pas à la radio, les gens en concert sont toujours là. Et même sur les réseaux sociaux, et voilà, et c'est un truc, ça s'explique pas, il y a que le public qui peut expliquer, en fait, pourquoi. Je les remercie. Enfin, il y a que ça, en fait, les remercier, et puis continuer à chanter, puisque s'ils me suivent, c'est aussi pour ça, donc, voilà, continuer à faire partager ma musique et être là pour eux.
C'est ça qui était marquant à l'époque, c'était la sincérité pour laquelle vous faisiez une émission tous un peu comme celle-là, c'est que chanter c'était ta raison de vivre, ça l'est toujours aujourd'hui, la preuve, tu fais tout pour en vivre, et c'est peut-être ce qui vous différencie un petit peu de l'époque d'aujourd'hui.
Peut-être, je sais pas, alors je sais pas du tout, c'est vrai que nous on est pas nés dans les réseaux sociaux, nous on est nés avant, il a fallu qu'on se batte avant et sans réseaux sociaux. Aujourd'hui on va dire que la communication c'est vrai qu'est beaucoup plus facile. On peut atteindre beaucoup plus de gens via les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est pas notre quotidien. Voilà, je passe pas ma vie à regarder si mes courbes de connexion sont bien, si machin. C'est... Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus élevés à ça en fait. Alors, je parle pas forcément de la salle, je parle des jeunes en général. Hein. Juste à regarder, est-ce que ma communauté a été développée, machin. Voilà, moi, je pense pas spécialement. Je partage ce que je sais faire, je partage ma passion. Je suis là pour mon public. Et puis bah ceux qui veulent bien continuer la route avec nous rejoignent et c'est avec grand plaisir et voilà.
5 titres pour cette EP, ça s'appelle MV, ça vient tout juste de sortir sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légales. Oui. Et Magali, on va préciser 5 titres. Mais est-ce que tu as dû faire un choix sur cette EP? Est-ce que tu en avais d'autres de près? Et si oui, pourquoi ces 5 là par rapport aux autres que tu as peut-être laissés sur le bord de la route pour l'instant en attendant un album éventuel?
C'est ce que j'ai expliqué en fait, c'est que ma façon de voir les choses, le message que je voulais passer a évolué. Donc il a fallu forcément dire non à des chansons
qui étaient peut-être plus mélancoliques du coup.
Oui, plus mélancoliques où les messages étaient peut-être un peu plus durs. Alors, je dis pas que l'EP est tout rose non plus hein, bien sûr des pleurs déjà à la base c'est pas la chanson la plus joyeuse déjà rien que par le titre. Bon, c'est ma chanson. Donc je la garde. Et puis est-ce que tu m'aimerais si c'est aussi une chanson un peu dure puisque c'est la chanson où moi je me pose des questions ou en tant que femme je me demande est-ce qu'on m'aime quand je parle des personnes quand je suis en couple, est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis ou est-ce qu'on m'aime pour la personne publique que je suis, pour l'artiste que je suis. Donc c'est quelque chose voilà qui dans ma vie est revenu et c'est pour ça que ce titre me tenait malgré tout très à cœur sur cette EP. Et puis on me connaît aussi pour des chansons à texte, pour des émotions, faire sourire les gens. C'est ce que je voulais faire, mais je voulais aussi faire passer des messages, bien sûr, et c'est important.
Allez, on va citer toutes les dates que tu vas avoir donc cet été en concert. On te retrouvera sur le coin de la Vendée entre le 18 et le 28 juillet. Tu passeras par la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer, Saint-Hilaire-la-Forêt, Jarre-sur-Mer, Saint-Julien-des-Landes. Et puis tu commenceras une tournée vers la Charente et la Dordogne à partir du 31 juillet. Et tu passeras par le Bugue, Aubeterre-sur-Drône, la Monzie-Montastruc ou encore Petit-Palais et Cornepps, Saint-Félix-de-Bourdeille, Villeneuve-sur-Lot. Du côté du Lot et Garonne, Sainte-Nathalène, Cazoulès, et puis ensuite tu t'envoleras pour le Lot, Gourdon et Saint-Cirq-la-Popie, avant de revenir en Charente-Maritime, à Saint-Palais-sur-Mer, le 30 août, au camping Paradis Les Pins, du côté de Royan. Bref, tu vas passer un été, on va dire, qui va être bien animé.
Génial.
Ouais, oui, exactement.
Génial. On va bien s'amuser avec Tiad, on va encore passer un bel été, ouais. Donc, si les gens n'ont pas retenu toutes les dates que tu viens de dire...
Voilà, c'est magalivae.fr.
Tout est disponible, exactement, voilà, sur mon site internet.
Et vous avez les liens, évidemment, aussi pour justement aller découvrir cette EP de Magali Vaé. On va découvrir maintenant un deuxième extrait.
Celui dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, justement.
Est-ce que tu m'aimerais si? Eh ben voilà. Eh ben écoute, ouais. On va se quitter là-dessus. Et puis on se retrouve très très vite à la fin de l'été. On essaiera d'aller te voir dans l'été pour venir à ta rencontre, en tout cas, et celle de Tiad.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Et on peut retrouver aussi l'album de Tiad hein, sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Puis on vous retrouve en musique, évidemment, tous les deux, tout au long de l'été, en tournée. Et n'oubliez pas l'EP de Magali Vaé, ça s'intitule MV. Et vous avez toutes les infos sur le site magalivae.fr. À très bientôt Magali, merci à toi.
À bientôt, merci.
C'est ok, tu m'as connue dans ta télé, tu pensais... Déjà tu me connais, tu t'empresses de lire tout ce que tu peux trouver dans la presse. Mais ce n'est pas ma réalité, je le sais. Tu aimes me regarder chanter, mais en vrai, qui est celle que tu veux aimer? Je veux savoir si tu aimes la femme que je suis ou la star que tu présentes à tes amis. Je veux juste qu'on m'aime vraiment. Je veux qu'on m'aime normalement. Est-ce que tu m'aimerais si je n'étais pas artiste? Est-ce que tu m'aimerais pour la vie de tous les jours? Est-ce que tu m'aimes ce que je suis? J'essaie d'être optimiste. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Parle de moi dans ta télé et partout. Tu veux suivre mon actualité, c'est navrant. Si peu reflète la vérité, donc comprends que de tout je dois me méfier quand je me fais arrêter par des inconnus dans la rue pour une photo, mais rien de plus décevant. Jalousie si incongrue, je les chante. Si délaissé, je suis perdu. L'allure fière que tu prends me fait douter tellement. Est-ce que tu m'aimerais si je n'étais pas artiste? Est-ce que
lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le grand plaisir de recevoir Tiphaine Davio qui est à l'affiche de la série Les Randonneuses. Et bien d'autres surprises vous attendront encore. Restez connectés.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connectés avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente sur mariemorin.fr.